Il est 8h.
Je suis contente d'être en Slovaquie. Ici, on peut se balader plus librement dans des lieux où les Français, eux, ne peuvent pas aller.
Et oui, nous ne sommes pas dans un lointain pays d'Asie ou sous un régime autoritaire, mais au milieu de l'Europe, en Slovaquie, qui a réussi à tester toute sa population pour isoler les malades et ne pas confiner les autres. Ce matin, nous vous emmenons dans trois pays d'Europe dont les stratégies face à la deuxième vague du virus sont très différentes de la nôtre et très intéressantes aussi. La Suède, dont les écoles n'ont jamais fermé, même au printemps. L'Italie, qui autorise les messes en public, l'ouverture des librairies et un confinement différent selon les régions. Les trois envoyés spéciaux d'Europe 1 en direct dans un instant. Dans ce journal, l'hypothèse d'un vote par correspondance en France, est-ce faisable comme aux États-Unis? Et puis le témoignage d'une maman qui a vécu la mort de sa fille, Alexia Daval, et les mensonges invraisemblables de son gendre il y a 3 ans.
Au cœur de notre tour d'Europe, des stratégies, des solutions pour vivre avec le virus sur le long terme pour combattre l'épidémie, le professeur Philippe Juvin, chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Savez-vous quelle est la devise officielle de l'Union européenne ? Unie dans la diversité. On peut dire que cette diversité est particulièrement visible dans la lutte contre le Covid, entre la façon de compter les malades, les stratégies de tests, les commandes de masques ou encore la gestion des frontières. 9 mois après l'apparition du virus en Europe, la coordination entre pays n'est pas criante.
Face aux vagues successives de l'épidémie, quelque part nous sommes tous dans le même bateau, mais chacun écope dans son coin. Des stratégies très précises et même, vous allez le voir, assez inspirante, que les reporters d'Europe 1 sont allés voir sur le terrain.
Oui, Jean-Jacques Herry, bonjour, vous êtes en Slovaquie, à Bratislava, où on a adopté une stratégie unique en Europe, testée d'un coup toute la population.
Oui, tout le monde, sauf les jeunes enfants et les personnes âgées. Hein. Et cette stratégie, elle a un effet très visible pour moi qui arrive de France et qui me balade dans les rues de Bratislava. Il y a une vie à l'extérieur en Slovaquie et c'est surprenant. Les magasins sont ouverts, les cafés ont mis des tables en terrasse, loin d'être remplis certes, mais l'on peut prendre un café. C'est là que j'ai rencontré Edvard.
Nous vivons une vie normale. Le Covid est là, mais on vit normalement. On peut aller dans un café ou un restaurant, mais même si on doit tout consommer à l'extérieur, ça, ils nous l'ont autorisé. On est en plein air, dans le froid, avec une distanciation entre les tables. Mais même dans le froid, on apprécie.
Jean-Jacques, comment est-ce qu'on fait pour tester autant de monde ?
Eh bien, il faut des moyens colossaux. À peu près 50 000 personnes ont été mobilisées, des médecins, des bénévoles, l'armée slovaque. Et il y a même des renforts qui sont venus de Hongrie et d'Autriche pour des tests toute la journée de 7h à 22h au total. 3 600 000 Slovaques, environ les 2/3 de la population, ont été testés les 2 premiers week-ends de novembre. L'objectif de ces tests, c'était vraiment de faire un tri, de fixer des règles. Si vous êtes positif, c'est quarantaine obligatoire, 10 jours à la maison avec interdiction de sortie. Si vous êtes négatif, en revanche, vous recevez un papier bleu, une sorte de sésame à présenter en cas de contrôle, qui vous autorise à être dehors sans restriction de mouvement, puisque l'on considère que vous ne pouvez pas transmettre le virus. La population a répondu présent parce qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Le certificat bleu était nécessaire pour aller travailler ou pour emmener ses enfants à l'école. Et pour ceux qui seraient sortis sans ce fameux papier bleu, le risque était très gros, 1650 euros d'amende.
Oui, alors Jean-Jacques, je remarque que vous dites le risque était très gros, vous parlez au passé.
Oui, parce qu'il y a eu une bascule ce week-end. Les testés positifs d'il y a 15 jours ont terminé leur quarantaine. Plus besoin donc de les différencier des autres, plus besoin de ce fameux papier bleu. Tout le monde a le droit de sortir dehors sans restriction maintenant, d'aller au centre commercial par exemple, où Barbara faisait ses courses avant-hier.
Je suis contente d'être en Slovaquie, où tout ça c'est possible. En fin de compte, les mesures qui ont été prises sont une sorte d'exemple pour les autres pays. Ici, on peut se balader plus librement dans des lieux où les Français, eux, ne peuvent pas aller. J'espère qu'ils pourront le faire rapidement.
Avec Jean-Jacques, ce qu'on entend, ça paraît presque trop beau pour être vrai.
Tout n'est pas réglé, c'est vrai. Il faudra encore attendre une semaine avant de voir si ces tests ont vraiment cassé la courbe de transmission. Il reste des inconnus qui tiennent d'abord à la nature des tests utilisés. Ce sont des tests antigéniques moins fiables que des tests PCR. Mais il n'empêche, la stratégie séduit. L'Autriche, par exemple, a annoncé hier soir qu'elle aussi allait mener une campagne de dépistage à grande échelle. Mais attention, cette stratégie est un outil qui, ici en Slovaquie, ne fait pas oublier les gestes barrières et le port du masque qui reste, comme en France, plus que jamais obligatoire.
Merci Jean-Jacques Herry, en direct de Bratislava, en Slovaquie.
Et bonjour Jonas Chabas.
Bonjour.
On continue notre tour d'Europe avec vous. Vous êtes en Suède. Alors qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'on vient d'entendre ?
Eh bien Jean-Jacques parlait justement des masques partout et en fait ici en Suède c'est radicalement différent, les masques ne sont nulle part, c'est frappant dès la sortie de l'avion, la première chose que j'ai vue c'est la police aux frontières sans masque, dans les rues, les boutiques, les restaurants, personne n'en a, je suis allée dans un hôpital et même là le chef infectiologue n'en portait pas, Frédéric Sund considère que le masque donne une fausse sécurité.
Quand vous pensez bien porter un masque, vous ne respectez pas les autres recommandations. Vous vous sentez invincible. Le bon moment pour porter un masque, c'est quand vous êtes dans un endroit bondé. Mais vous devriez ne pas y être du tout, en fait. C'est ça la méthode suédoise. Si vous respectez les règles de distanciation, vous n'avez pas à porter un masque.
Ici, seuls les médecins au contact de patients Covid et les travailleurs d'entreprises internationales portent un masque.
Johanna Chabas, autre énorme différence, les écoles qui sont toujours restées ouvertes sans aucun protocole. On écoute votre reportage dans une école primaire de Stockholm.
Les enfants courent partout, se mélangent, aucune distanciation entre les élèves et les professeurs. Une scène impossible en France, mais tout à fait normale pour Linia et son mari Karl, parents de deux enfants.
Je me sens triste pour le reste du monde, pour tous les professeurs et tous les enfants.
Les enfants sont peu touchés par le Covid et ils n'en meurent pas. Ils tombent malades tout le temps. S'ils l'attrapent, ils s'en remettront.
L'école n'a jamais fermé depuis le début de la crise. C'est vital pour la santé mentale des enfants, selon Frida, une jeune maman.
Je pense que mes enfants ont vraiment besoin d'être stimulés par la présence d'autres enfants. L'école est très importante pour eux, c'est un échappatoire.
L'école permet notamment, selon cette maman, de protéger les enfants des violences familiales.
Alors avec ce reportage, Johanna, on a l'impression que tout est normal, finalement, en Suède. Il faut tout de même souligner l'importance de la responsabilité individuelle des Suédois.
Oui, le gouvernement n'a pas le pouvoir législatif pour mettre en place de véritables interdictions car la Constitution garantit la liberté de circulation. Donc seule restriction pour l'instant, les rassemblements sont limités à 50 personnes. Pour le reste, le gouvernement ne fait que des recommandations, télétravailler, sortir le moins possible. Et c'est très suivi, des commerçants ici ont perdu plus de la moitié de leur clientèle. Le respect des autorités est ancré dans la culture. Les Suédois me disent tous à quel point ils font confiance en leurs dirigeants et suivent leurs décisions. Alors, le nombre de cas augmente, le taux de mortalité aussi, 598 morts par million d'habitants, mais pour l'instant, il reste inférieur à peine à celui de la France.
Merci Johanna Chabas à Stockholm pour Europe 1. On va se rapprocher un petit peu de nous avec l'Italie à présent. Et contrairement à la France, où Gérald Darmanin se dit prêt à verbaliser devant les églises, les Napolitains, eux, bien que confinés, ont pu assister à la messe du Père Nicolas.
Nous retrouver dans la prière est un immense réconfort en cette période. Mais attention, il y a des règles de sécurité à respecter. Dans l'église, il faut garder une distance d'un ou deux mètres entre chacun des fidèles. Enfin, la communion est reçue directement dans la main. La donner directement à la bouche, ce n'est pas autorisé.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
À Rome, après avoir passé deux jours à Naples, cette différence, Jean-Sébastien, avec la France, ça s'arrête à l'autorisation des messes ?
Pas du tout. Autre exemple, les librairies. Ici, elles peuvent rester ouvertes, considérées comme nécessaires pour s'aérer l'esprit. Et puis les autorités veulent leur éviter la faillite. Tullio, libraire à Naples, prend cette décision comme une mesure de survie.
Les librairies souffrent.
Les librairies sont en crise depuis longtemps. C'est vraiment une bouffée d'air de pouvoir rester ouvert. Parce qu'en ce moment, des gens se mettent à lire. Certains deviennent des acharnés de lecture. Je pense que la France se trompe.
À côté de ça, il est aussi possible d'aller chez le coiffeur, même dans les zones qui sont désormais confinées.
Oui, parce que ça aussi, c'est une différence avec la France, Jean-Sébastien, l'Italie qui confine selon les régions.
C'est ça, si on compare avec nous, des régions sont moins touchées que d'autres, mais tout le monde est confiné. En Italie, Rome est en jaune sur la carte. Circulation du virus faible. Il y a un couvre-feu, mais peu de restrictions en journée. En revanche, Naples s'affiche en rouge. Hôpitaux saturés, un soignant m'a dit qu'en une heure, 5 ambulances ont évacué des patients vers d'autres structures. L'approvisionnement en oxygène, c'est une citerne par jour contre 3 livraisons par semaine en temps normal. Résultat, Naples vit quasiment le même confinement que le nôtre.
Et comment les Italiens vivent cette situation ?
Oui, plutôt bien. Là où nous, Français, opposons petits commerces et grandes distributions, eh bien les Italiens acceptent les règles. Alfredo tient une boutique de vêtements. Il va fermer pour 2 semaines au moins. Pourtant, ça ne le gêne pas si, 100 km plus loin, le même magasin peut rester ouvert.
Si à côté, ils ont eu plus de chance ou s'ils ont été plus efficaces pour contenir l'épidémie, ce n'est pas à eux de payer les erreurs des autres. Cette pandémie nous pousse à être égoïstes et au lieu d'être égoïstes, nous devons tous prendre nos responsabilités.
La première vague très violente a marqué les Italiens. Italiens au fer rouge, le coronavirus les a changés en profondeur, au point presque de devenir des Suédois dans l'âme et d'en perdre leur comportement latin.
Jean-Sébastien Soldaini à Rome pour Europe 1, ce tour d'Europe avec l'Italie, la Suède, la Slovaquie, mais aussi la Suisse et la Finlande dont nous vous avons parlé dans le journal de 7 heures. C'est un dossier complet à retrouver pays par pays sur Europe 1.fr.
Revenons donc à la France. Tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique. C'est ce que déclare le ministre de la Santé ce matin, Olivier Véran, dans le Dauphiné Libéré, l'Alsace ou le Républicain Lorrain, s'appuyant sur la thèse de plusieurs indicateurs, sur la baisse de plusieurs indicateurs. Il y a malgré tout cette question. Pourra-t-on voter sereinement pour les élections régionales, départementales et même la présidentielle, finalement, dans un an et demi, si jamais le virus n'est pas éradiqué?
Et l'idée d'un vote par correspondance a refait surface. Jean-Rémy Baudeau, le sujet divise jusqu'à dans la majorité.
Oui, et c'est une idée défendue par François Bayrou et le Modem depuis plusieurs années. Une idée accueillie avec intérêt par une partie de La République En Marche, y compris par Christophe Castaner, le patron du groupe LREM. Mais pour faire avancer ce débat, l'ancien ministre de l'Intérieur va devoir contourner le nouveau. Gérald Darmanin se montre farouchement opposé au vote par correspondance. Une fausse bonne idée, a écrit hier le patron de Beauvau. Il met en avant le coût, la logistique compliquée et le risque de fraude, de manipulation, y compris communautaire. Le secret de l'isoloir, c'est une conquête, clame l'entourage du ministre. Une position qui fait grincer des dents. Il ne veut pas qu'il y ait de débat, regrette un macroniste historique. De son côté, l'Élysée temporise. Le président veut avant tout du consensus, explique l'un de ses proches. Dans le contexte actuel, pas question pour Emmanuel Macron de rentrer dans un débat sur lequel la majorité risque de se déchirer.
Jean-Rémy Baudeau.
Ouverture ce matin d'un des procès les plus attendus cette année. L'affaire Jonathan Daval, accusé du meurtre de son épouse Alexia, il y a 3 ans, à Grès, en Haute-Saône.
Oui, sa belle famille l'avait soutenu pendant des semaines sans savoir la vérité. Ce matin, Europe 1 vous propose d'entendre le témoignage d'Isabelle Fouliot, la maman d'Alexia, qui a vécu cette situation terrible.
Bien sûr que je vais le regarder. Je l'ai quand même connu pendant plus de 10 ans, hein, ce meurtrier. Donc oui, il ne me fait pas peur. Ah non. Qu'est-ce qu'il voit quand il se regarde dans une glace, ce garçon? Moi, je n'y vois qu'un lâche. Est-ce que je vais croire un traître mot de ce qu'il va me dire? Il a trop changé de version. Donc non, je crois que j'attends rien de lui là-dessus. Moi, ma grande question, c'est le pourquoi. Pourquoi en arriver à tant d'horreur? Elle a quand même reçu 15 coups de poing. Il ne reprend jamais ses esprits. La volonté de tuer, elle est là. 15 coups de poing. Un étranglement de 4 minutes. Il voulait vraiment en finir avec Alexia. C'est de la préméditation pour moi. Il voulait vraiment qu'elle meure. Moi, j'attends juste qu'on mette le mot « coupable » sur sa tête.
Ce témoignage extrêmement fort hein, d'Isabelle Fouliot, la maman d'Alexia Daval, au micro d'Arthur Mbaché. Il parle de condoléances pudiques. Emmanuel Macron déplore le faible soutien international apporté à la France après les derniers attentats. Dans un entretien à la revue Le Grand Continent, le président français rappelle qu'il y a 5 ans, après la tuerie à Charlie Hebdo, le monde entier défilait à Paris et défendait ses droits à la liberté d'expression. Et puis dans l'actualité, un décompte. La nuit dernière, 4 astronautes en route vers la Station Spatiale Internationale. 1, 0. Ignition. Voilà, acheminé par l'entreprise SpaceX via sa fusée Falcon 9. Alors, le premier étage de l'engin a été récupéré et sera réutilisé au printemps prochain pour emmener le Français Thomas Pesquet et 3 coéquipiers dans l'espace.
Merci François Geffry. On a pris de la hauteur à la fin de ce journal de 8h après ce tour d'Europe des stratégies contre le Covid. Merci François, 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.